Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Haribaud. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Tu étais venu nous voir il y a un an pour Une brûlure sur la joue. Et là, tu reviens avec Prophétie, un recueil donc de poèmes accompagné d'un DVD, dont on parlera un petit peu plus tard, après les petites infos, comme à l'accoutumée. Donc, en cette fin d'année, donc je vais vous présenter quelques... Donc, tout d'abord, vendredi 15 décembre, donc c'est-à-dire demain, à 18h30 à la bibliothèque Saint-Exupéry, qui se situe 37 rue du Lot, une soirée pyjama de Noël. Alors avant l'heure du coucher, nous invitons nos jeunes lecteurs de 3 à 6 ans à voyager avec nous au travers de lectures d'albums scénarisés, de récits et de comptines. Alors l'embarquement est à 18h30 pour une heure d'aventure, pyjama recommandé et doudou bienvenu. Donc pour les inscriptions, il vaut mieux s'inscrire. Donc c'est au 05 62 87 99 68 05 62 87 99 68. C'est juste pour l'inscription, puisque bien sûr c'est gratuit. Et donc c'est la bibliothèque Saint-Exupéry. Ça, voilà, c'était pour le vendredi 15 décembre. Ensuite, le vendredi 15 décembre, mais à un autre endroit, à la librairie Priva, qui se situe 14 rue des Arts, de 16h à 19h, une rencontre avec l'auteur Jéronyme Pasteur pour son livre « Et sur les rives de ma vie » aux éditions Artaud. Alors cet auteur, depuis plus de 20 ans, navigue sur tous les océans du monde et retourne régulièrement au cœur de la forêt péruvienne auprès d'un clan d'Indiens, les Achaninkas, sa seconde famille. Elle retrace donc dans cet ouvrage 50 ans de vie vouée à la mer, à la forêt, aux rêves, à la poésie, voilà, et à la liberté. Donc c'est à venir découvrir le vendredi 15 décembre à la librairie privée de 16 à 19h. Ensuite, je continue avec le Café Philo, le dernier de l'année. Hein, le prochain aura lieu le 20 janvier 2007. Donc là, le Café Philo, c'est ce samedi, le 16 décembre, de 17 à environ 19h, avec le sujet suivant, je vous l'avais déjà dit, « Comment définir l'homme du 21e siècle ?» Bonne question, donc entre manipulation génétique, technique moderne, mode de vie contemporain et interactivité mondiale, l'être humain de demain demeurera-t-il intrinsèquement le même ou deviendra-t-il essentiellement mutant ? Donc c'est une bonne question à venir débattre au Café de philosophie, au Café des Arcades, aux salles du premier étage, place de la Halle, et c'est à Revel. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 61 83 57 12. Et le prochain, donc, Café Philo, ça sera le samedi 20 janvier. Je vous le redirai en temps voulu. Et puis ensuite, une manifestation à la librairie de la Renaissance, ce samedi 16 décembre également, à 11h. C'est France All Black, 100 ans de rencontre, à l'occasion du centenaire du 15 de France, les éditions Au Vent des Îles publie un ouvrage sur les 100 ans de rencontre entre la France et l'équipe néo-zélandaise. Donc la librairie de la Renaissance vous invite à rencontrer l'auteur qui s'appelle Ian Borthwick, et puis des anciens internationaux comme Émile Ntamack, entre autres, pour revivre des moments forts en émotion. Alors la fraternité et la convivialité seront au rendez-vous autour d'un apéritif. Donc c'est à la librairie de la Renaissance qui se situe 1 allée Marc Saint-Saëns. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement. C'est le 05 61 44 16 32. 05 61 44 16 32. Et également, au même endroit, la librairie de la Renaissance est le même jour, samedi 16 décembre, mais à 16h, il y aura une autre manifestation, c'est un concert poétique. Décidément, la poésie est à l'honneur ces temps-ci. Donc un concert poétique par la compagnie du Rêveur. Donc c'est une présentation de l'essai « La langue turque, la nouvelle poésie turque et la place révolutionnaire » de Nazım Hikmet, du professeur Ali Ocelebi, écrivain, ancien doyen de la faculté de Bursa en Turquie. Donc une présentation qui est faite par Omer Izik et Elric Fabre-Meynier, qui sont comédiens, et suivie d'une lecture de quelques textes en turc, puis aussi en français, accompagnée de musique traditionnelle au saz. Voilà, donc c'est à la librairie La Renaissance, 1 allée Marc Saint-Saëns, donc je vous invite à venir profiter de ce samedi en leur compagnie. Et puis, l'avant-dernière info, le dimanche 17 décembre, au Belvédère à Haute-Rive, de 9h30 à 18h, la maison d'édition de jeunesse, le Griffon Bleu, organise une rencontre avec dédicaces d'auteurs et d'illustrateurs, lecture de contes pour les enfants, dégustation de châtaignes grillées. Et toutes les ventes, il faut le signaler, toutes les ventes seront au profit de l'Association des parents d'enfants cancéreux d'Occitanie. Donc je vous invite à venir rejoindre donc le responsable de la maison d'édition que vous connaissez puisqu'il est déjà venu, Didier Debord, donc à venir le rejoindre avec tous ses auteurs et ses illustrateurs le dimanche 17 décembre donc au Belvédère à Haute-Rive. Et puis en plus, voilà, vous ferez une bonne action quoi en cette fin d'année pour tous ces enfants mais qui sont pas toujours en bonne santé comme les autres. Alors, je termine avec la fermeture annuelle de la médiathèque José Cabanis. Elle sera fermée du samedi 23 décembre à 19h et réouvrira ses portes le mardi 2 janvier à 10h.
Page à page, Claire Ambille.
Pou pou pitou. Voilà, les infos sont faites, donc maintenant je passe à mon invité, donc Jean-Luc Haribeau. Tu étais venu donc, comme je disais, il y a un an, presque jour pour jour, je crois, hein, parce que c'était en décembre ou en novembre.
Oui, c'est ça, à peu près, pour le recueil Une brûlure sur la joue, qui était sorti en octobre, oui, tout à fait.
Voilà, donc, on avait déjà découvert des poèmes, et là, cette fois-ci, tu reviens donc avec un recueil plus vif, beaucoup plus vif d'ailleurs. Mais bon, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que bon, comparé à celui de l'année dernière, celui-là, il rentre vraiment dans le vif du sujet, on va dire. Hein.
Oui, c'est une écriture qui est beaucoup plus vive, beaucoup plus dure que le précédent recueil. C'est pas le même thème aussi.
C'est vrai.
Voilà, le précédent, c'était une traversée de la peinture, de différents tableaux.
Oui, il y avait beaucoup d'évocations de peintres,
de
célèbres tableaux.
Voilà,
oui.
Donc des poèmes qui étaient en résonance avec ces tableaux, donc une certaine douceur, des petits tableaux quotidiens de vie, comme ça, des relations entre le réel, les scènes réelles et la peinture, l'histoire de la peinture, tandis que là, c'est un recueil plus engagé, plus politique, plus vindicatif.
Oui. Oui, d'ailleurs, donc il est édité chez le Castor Astral.
Voilà, c'est le même éditeur.
Pour Une brûlure sur la joue.
Une brûlure sur la joue, tout à fait.
Et donc, sur la quatrième de couverture, d'ailleurs, tu expliques un petit peu en quoi consiste ce recueil de poèmes. Et donc, à la fin, c'est marqué « Chaque poème est ici plutôt un appel violent aux mémoires ».
Oui, tout à fait, oui. Pour moi, c'était essentiel, par l'intermédiaire du poème, de rappeler un peu... tout simplement qui nous sommes, qu'est-ce que c'est que l'être humain, qu'est-ce que c'est qui le fonde, quel est son socle essentiel, quels sont ses fondamentaux, qu'est-ce que c'est qui nous guide au-delà de toutes les chimères ou les carottes qu'on nous agite devant les yeux pour nous faire avancer. Je crois que c'est un des rôles de la poésie.
Oui, c'est vrai que la poésie, des fois, n'est pas assez mise en valeur. Hein, c'est un peu le...
Oui, et puis j'avais envie de sortir un petit peu d'une certaine d'un certain type d'écriture aussi qui est le mien et de beaucoup de poètes, c'est-à-dire parfois de n'avoir que des images un petit peu
douces,
voilà, ouais, de nature, etc.
Qui donnent plutôt à rêver, tandis que là, voilà, c'est pas, ça fait pas rêver, c'est voilà, plutôt assez
voilà,
réaliste.
Voilà, et... c'est assez réaliste, et puis c'est un recueil aussi qui, d'un point de vue de la... à proprement parler de la langue, va puiser, va chercher, racler dans des territoires langagiers qui sont pas a priori ceux du poème, comme les termes économiques, des termes informatiques, etc.
qui sont
employés. Donc c'était un petit peu volontaire aussi pour parfois tordre le cou à ces mots-là, ou au contraire les ramener dans le champ poétique, ou pour en montrer aussi tout simplement l'inutilité.
Oui. Et donc ce recueil, il est dédié donc à ta petite fille qui est née au mois de mai,
voilà,
Manon. Et parce que bon ben oui, l'enfant c'est notre avenir, hein. Donc.
Oui, c'est un recueil qui s'appelle Prophétie. Donc c'est une série d'une cinquantaine de textes qui sont calibrés, organisés comme peuvent l'être dans l'histoire de l'écriture et des prophéties. Je me suis inscrit tout à fait modestement, mais c'était pour moi utile de m'inscrire dans ce registre-là. Et donc ce sont des prophéties. J'avais envie de les dédier à ma petite Manon, parce que je l'ai écrit pour les générations futures, pour les enfants, pour essayer un petit peu de protéger enfin à ma manière, avec mes moyens qui sont simples, ceux de la poésie, de la langue, de protéger un peu les enfants de tout ce qui nous arrive dans notre monde via la mondialisation, la supra-économie, supra-technologie, etc.
Oui, la supra,
toujours supra quelque chose, toutes ces choses qui sont pas forcément porteuse du bonheur qu'on voudrait faire croire.
Leur expliquer, les protéger, expliquer, de les mettre en garde, en fait. Hein,
C'est une mise en garde contre la duperie d'une proposition marchande du monde qui, à mon avis, ne peut pas répondre à... Il ne répondra jamais à ce que nous sommes,
mais ce que nous attendons au fond de nous.
Mm-hmm. Et le problème qu'il y a et qui est dangereux, c'est que cette proposition marchande, ce racolage permanent, utilise les mêmes principes, les mêmes fonctionnements, il me semble, justement, paradoxalement, que la poésie, qu'une certaine littérature, en ce sens, qui font appel à la pulsion, à quelque chose de vif chez nous. Et là, c'est dangereux, parce que quand on va vers la pulsion, vers le vif, sans réflexion...
Oui, c'est là où ça peut déraper.
Voilà, ça peut déraper.
Ouais,
alors,
tout à fait.
Le poème est toujours de ce côté-là. Il y a quelque chose d'intuitif, d'immédiat, de vif, de pulsionnel dans le poème. Sauf que c'est fait pour, comme je dis dans la préface, pour aller vers une reconquête de notre intériorité. Tandis que dans la société marchande, le capitalisme, le commerce excessif, la pulsion, elle est là, au contraire, pour nous soumettre, pour vendre et faire de nous des machines à crédit. Voilà. Donc j'avais envie un peu de traiter ce paradoxe-là et de parler un peu de tout cela.
Et justement, là, tu parles de la préface. Donc la préface est de Didier Péris.
Oui.
Donc tu peux nous dire deux mots.
Didier Péris, c'est un collègue à moi, donc bordelais. Alors je dis collègue parce qu'il est aussi éditeur comme je suis. Donc il a une maison d'édition qui commence vraiment à avoir de l'importance en Aquitaine et ailleurs, qui s'appelle Pleine Page, et qui édite également beaucoup de poésie, pas que, mais beaucoup de poésie. Donc il est imprimeur de métier, et il écrit aussi, il est poète. Donc c'est un ami avec qui je travaille, avec qui je coédite des livres. On a créé une petite collection ensemble de coédition qui s'appelle Détour du silence. Voilà, donc on a publié déjà une dizaine de titres ensemble. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je lui ai donné le recueil qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais lu, pour faire une préface, voilà.
Voilà, et ça l'a inspiré, voilà. Il a écrit une très, très jolie préface.
Oui, très belle préface. Hein.
Et donc le livre donc, sur la première de couverture, il y a une photo, hein, parce que oui. Faut rappeler que tu es aussi photographe, hein, tu as plusieurs casquettes, oui. Jean-Luc. Tu fais des très belles photos, donc il y a une photo donc, de ce que tu fais, hein, sur la première découverte.
C'est une photographie d'un aigle que j'ai faite en Italie, voilà. Donc, j'ai pris l'aigle comme symbole, parfois un peu douloureux de l'histoire.
Hein. Comme la chanson de Barbara.
Voilà, aussi. Voilà. Ouais, c'est pareil, c'est le paradoxe. Ouais. Ça peut être, voilà, tout à fait. Ça peut être l'aigle de Barbara comme l'aigle dramatique de l'histoire napoléonienne ou italienne. Mm-hmm. Voilà. Mm.
Et puis, donc, il faut quand même signaler que ce recueil, il a une particularité, c'est qu'il est accompagné d'un DVD.
Oui, tout à fait.
Qui a été monté, on peut le dire, par White Diban,
voilà,
hein, qu'on connaît bien.
On connaît bien, de Toulouse.
Voilà, de Cercle Fermé, hein, qui était venu également l'année dernière pour nous parler un peu de ses chansons, de sa pièce de théâtre,
ouais, oui,
et
White,
de tout
qui
ce
est,
qui véhicule est, dans ses...
Voilà,
dans
qui est aussi écrivain, qui est vidéaste, etc., qui fait aussi du... qui est metteur en scène et qui fait pas mal de théâtre, voilà.
Et donc, voilà, donc il a monté ce DVD. Donc, dans ce DVD, on y trouve, des lectures, enfin, la lecture des poèmes, par à la fois une comédienne qui est Marie
Diliès, voilà.
Et un comédien,
Jean-Michel Hernandez.
Et puis il y a une voix de petite fille
Alors j'ai pas pu prendre Manon parce qu'elle
est
trop petite
elle a 7
pour
mois,
parler.
Donc c'est, voilà.
Voilà, donc c'est une petite fille qui s'appelle Jeanne Engelbert, qui est la fille d'ami à moi. Donc j'avais envie d'avoir une voix d'enfant sur le DVD, sur au moins deux titres. Ça me paraissait essentiel par rapport au thème du livre.
Oui, bah oui, comme c'est bon pour les générations, comme tu l'as dit, les générations futures, l'enfance, l'avenir. Voilà, c'était. Et donc, il y a des très belles vidéos hein, qui sont faites par toi.
Oui. Alors, j'ai fait ce DVD aussi par souci un petit peu pédagogique. Hein. C'est dans la continuité de ce que je fais dans l'édition, c'est-à-dire que je sais, j'ai totalement conscience, puisque je suis éditeur, donc je connais la réalité des choses.
Voilà, c'est vrai que tu as créé NEB, la maison d'édition NEB à Toulouse.
Voilà, donc je connais la réalité des choses en ce qui est question de poésie et de vente de livres. Je sais que c'est difficile. Hein. Donc j'ai voulu, avec plaisir, bien sûr, faire un objet comme ça à plusieurs niveaux de lecture pour un petit peu faciliter la lecture aux gens et la compréhension des textes.
Oui, parce que des fois, quand on prend un livre avec beaucoup de poèmes, c'est vrai que comme la poésie n'est malheureusement pas toujours bien reconnue à sa juste valeur, c'est vrai que des fois, les gens peuvent se dire « Oula, c'est un peu dur de rentrer dans les poèmes, dans la poésie. » Tandis que là, avec ce DVD, c'est plus facile. Ça facilite.
Ça marche parce que je vois que les gens... qui n'ont pas l'habitude de lire de la poésie, qui n'ont pas forcément une culture poétique, parce qu'il y a aussi ce que j'appelle le lecteur potentiel, qui est disponible à lire des poèmes, à les comprendre, mais qui n'est pas forcément dans cette habitude-là, dans cette culture, dans cette éducation-là. Et ça marche parce qu'il commence à regarder le DVD, il est appelé par les images. Donc c'est une trentaine de très petits courts-métrages, entre 30 secondes et 2 minutes 30, qui sont des images du quotidien, assez poétiques, avec une musique dessus
de Patrick
Arpaillage, qui est un musicien de la région, aussi un compositeur, et qui a mixé, arrangé l'ensemble dans son studio. Voilà, et donc et en fait l'ensemble est même un triple niveau, puisqu'il y a un spectacle aussi qui tourne, une performance poétique qui a été mise en scène par Marie Diliès et qui reprend les vidéos avec un jeu d'acteurs également et de la musique. Donc le spectacle commence un petit peu à tourner. C'est quelque chose que j'ai fait aussi en direction, qu'on a fait vraiment en direction des jeunes. Donc, performance qui dure 1h15, 1h30 minutes. Voilà. Donc, pour essayer d'amener les gens à écouter plus facilement la poésie. C'est le but de ce DVD, enfin, de ce triple objet, on va dire.
Mmh. Ouais, c'est pour les sensibiliser, voilà. Et ouais, non, je crois que c'est vraiment original, hein, comme structure, quoi. Le livre, le DVD. DVD, donc c'est, et puis enfin moi j'ai beaucoup aimé quoi, toutes les images, la musique, enfin c'est, puis bon c'est bien lu hein, évidemment hein, c'est des jolies voix quoi.
On a essayé de travailler, d'avoir justement une lecture à plusieurs niveaux.
Mm-hmm.
On a essayé un petit peu de sortir de cette idée de la poésie devant être lue de façon un petit peu neutre, voilà, on a essayé vraiment de faire de l'interprétation sans tomber dans la théâtralisation parce que c'est autre chose, mais d'avoir vraiment des auteurs et des lectures, des façons de lire différentes.
Non, pour s'adresser aux lecteurs et justement, tu cites une phrase de Nietzsche tout, avant de commencer le premier poème que je vais lire parce que qui illustre bien aussi pourquoi. Quant à celui qui connaît le lecteur, il ne fera plus rien pour lui. Un siècle encore de lecteur et l'esprit même sera puant.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une citation terrible, terriblement
réaliste
voilà, visionnaire de Nietzsche, qui posait déjà, qui un siècle avant avait peut-être compris une certaine forme de, malheureusement, peut-être ce qu'il faudra appeler de décadence de notre société, et qui avait compris un moment cette faillite de la lecture, ou plutôt d'un certain type de lecture, c'est-à-dire de lecture qui nous appelle à penser, comme devait le dire Heidegger plus tard, en parlant de Nietzsche, cette idée de la poésie amène à penser, elle développe la pensée. Hein. Il y a une, je crois même une formule qui dit qu'elle nous amène à penser ce que nous penserons demain ou ce que nous pensons pas encore. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ouverture d'esprit,
ouais,
l'appel
voilà, pour l'avenir,
voilà, vers quelque chose, vers l'avenir, vers quelque chose, vers aussi une intériorité, un lien entre peut-être l'archaïsme et l'avenir. Et ça, c'est important. Et Nietzsche évoque ça dans cette phrase qui est terrible, quoi.
C'est
la faillite même, la vision même de la faillite de la lecture, au-delà de la lecture, de voilà, d'une pensée qui est une pensée libre. Hein, voilà.
Ça illustre très bien ce qui va suivre après, hein, tout à fait. Donc justement, on pourrait peut-être donner à nos lecteurs, enfin à nos auditeurs tout du moins, et un exemple de ce qu'il y a dans ce recueil. Donc le premier poème, je pense, est assez évocateur et parlant.
Oui, je veux bien le lire. Hein. Ce sera à bout de souffle 40 kilos d'os dans la Sixtine. Le cercle des tungstènes taillera dans le vif du sujet mort. 18 années de temps machine, sexe avec vue sur le vivant, fécondé par un ange trader aux yeux de loup. Ce sera, petite fille, dans la tâche d'absinthe du hors-champ. Rome, ville close, et comme une valse d'électrodes sur une muqueuse, 1000 cierges allumés qui défieront l'ozone. Où sera donc l'âme de ceux qui t'inventèrent, Paulin, minuscule feuille de menthe sous le bunker de Calcapsis? Ce sera, mais allons donc, être ou pas se ruminera hors bouche, sans mémoire, quelque part sous les yeux du hibou, cloué sur les décombres.
Voilà, oui, donc ça illustre voilà, bien ce qu'on disait tout à l'heure.
Une réalité terrible. Alors évidemment, je parle d'un futur qui est déjà le nôtre en partie. Donc je parle un peu de
l'ozone.
Voilà, de tout ça, de tout ce qui tout ce qui nous fait peur. Bon, bien sûr, les choses les plus évidentes, la pollution, les choses comme ça qui mettent le monde en danger, mais les choses aussi plus moins évidentes comme ce que nous amène la supramédecine ou la supratechnologie qui en même temps nous soigne,
mais nous propose
d'autres mots, l'incapacité dans nos civilisations occidentales à envisager la mort, à envisager la vieillesse, la maladie, la nécessité de vieillir, voilà, parce qu'il y a une nécessité à être vieux, même si c'est douloureux, voilà, c'est comme ça, c'est le biologique.
Justement, pour laisser la place aux futures générations.
Voilà, l'incapacité à accepter l'impératif biologique. Voilà, des choses comme ça, l'idée du clonage, enfin, toutes ces choses-là, les nouveaux mythes, hein, voilà, comme je dis, qu'on achète à crédit, qui sont des faux mythes qu'on invente, hein, voilà, des vies aussi, des choses qui me choquent, c'est-à-dire où on propose aux gens de s'inventer des vies par l'intermédiaire de symboles, d'habillements, de paraître, etc., des vies qu'ils n'habitent pas. Donc il y a une espèce d'écart prodigieux entre ce que beaucoup de gens sont et ce qu'ils proposent symboliquement à la vue des autres. Hein, voilà. Et il me semble que dans cet écart entre le symbolique et ce qu'ils sont vraiment, mais dans cet écart-là, et tout peut se loger, c'est-à-dire le mal-être, la dépression, et puis peut-être la barbarie, parce que quand on a une vie qui colle pas exactement à ce qu'on montre, il me semble que c'est le point de départ de toutes les frustrations.
Mmh, et voilà, qu'après donc, la frustration, voilà. Ça peut amener beaucoup voilà. De choses donc, négatives par la suite.
C'est une chose comme ça
suite,
que, j'ai, que j'ai tenté un peu d'explorer par, mmh. par la poésie.
Et moi, j'en ai choisi un second, qui est pas mal non plus. Donc ça, c'est mon choix personnel.
Voilà, alors c'est il a le numéro 25 voilà. dans la cinquantaine de poèmes.
Donc je te laisse aussi le lire, merci.
Avec plaisir. Une nuit pénétrera dans ton souffle jusqu'à t'effacer de la liste maudite. Tu connaîtras ce flamboyant de ne plus être aigle tout en haut de la courbe, haletante à la poursuite de la valeur ajoutée. Ton sexe chevauchera le hiatus, l'incertain, l'infime moment de l'humilité où ce que tu as se donne sans reprendre. On te signalera des prises détachées, avec comme folie se sortir de toi-même. Tu seras seule et belle, tu auras peur mais 10 millions de cadavres jalonneront ta course. Tu dureras ce que dure une crème de nuit, un ongle savamment verni. À l'aube, le soleil et son commerce te violeront comme un traité de paix.
Voilà, donc ça il est assez...
Voilà, c'est assez terrible comme, oui. comme poème. Bon, voilà, celui-là aussi reprend ce dont je veux parler dans tout ce recueil, c'est-à-dire une croyance extraordinaire au pouvoir de l'argent, au pouvoir du commerce, à la place qu'on doit occuper dans la société, afin qu'on nous force à occuper, alors que je crois que des tas de gens auraient le souhait, finalement, de faire tout à fait autre chose, d'occuper...
D'être plus simple, de vivre voilà, plus de simplement vivre avec les valeurs essentielles qui sont plus proches de nous et de la nature aussi.
Oui, hein, tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout passéiste, en plus. C'est pas du tout une question de s'opposer à la modernité, qui, bien sûr, a amené des tas de choses extraordinaires. Mais comme d'autres, là, par l'intermédiaire de la poésie, puis plein d'autres, hein, gens qui écrivent ou qui écrivent pas, de façon militante ou pas, mais je crois qu'il est légitime de se poser un peu des questions sur...
Oui, c'est tout à fait apolitique.
Voilà,
hein,
se poser des questions
c'est
sur l'avancement...
Question sur la vie, sur...
Oui, tout à fait, sur l'avancement des choses, tout simplement. Quoi. C'est, je crois que quand une société avance, il faut faire attention de réfléchir avant, pas forcément après. Si les scientifiques avaient un peu réfléchi avant, peut-être on n'aurait pas la bombe atomique. Voilà, c'est un peu trop tard. Après, les atomistes en 1950, ils ont dit oh, c'est dommage, mais bon, c'est trop tard.
C'est bien justement voilà au moins d'écrire voilà des recueils, donc prophéties au pluriel, voilà, et donc écrit par Jean-Luc Haribaud, donc aux éditions du Castor Astral. Donc on le trouve.
À librairie, voilà.
En librairie,
C'est une maison d'édition qui est assez importante, mm-hmm. Qui est à la fois sur Paris, Bordeaux, sur Bruxelles aussi. Qui fait beaucoup, beaucoup pour la poésie, qui a énormément de poètes et beaucoup, beaucoup de titres. C'est parti mm-hmm. d'éditeurs assez solides et c'est distribué en librairie. On le trouve partout en librairie.
Et donc accompagné donc du DVD,
qui est à l'intérieur.
Qui est à l'intérieur. Donc je vous invite à vous le procurer pour les fêtes de fin d'année afin de commencer bien 2007 avec dans la tête toutes ces choses là. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu.
Mais merci à vous de m'accueillir.
Et à bientôt pour un nouveau recueil
avec
ou
plaisir.
Un nouvel ouvrage et puis un petit coucou donc à Manon. Hein, voilà.
Tout à fait.
Et puis pour nous on se retrouve jeudi prochain pour la dernière de l'année 2006 avec une lecture d'un petit polar de Magali Duru et lu par Magali Duru qui viendra en personne donc faire la lecture d'une de ses nouvelles. Voilà, à la semaine prochaine, à d'ici à tous. Boop boop be doop.